Direction dans le service. Nous avons vu que la possession d'un don constitue le mandat d'utiliser ce don. Cela ne veut toutefois pas dire que celui qui a un don peut savoir lui-même où et comment il doit l'exercer. Un évangéliste, par exemple, a le monde entier comme champ de travail. Le Seigneur a dit
« Allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. » Marc 16, verset 15.
Le serviteur n'a cependant pas le droit de déterminer lui-même comment il veut exécuter ce mandat. À chaque croyant, il est dit
« Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Romains 8, verset 14.
Et en Galates 5, verset 25,
« Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Mais je dis, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair, car la chair convoite contre l'Esprit, et l'Esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. » Versets 16 et 17.
Si cela est le cas pour la vie entière d'un croyant, combien plus encore pour le service particulier d'un ouvrier du Seigneur. Ce n'est pas seulement la volonté propre d'un inconverti qui est mauvaise, mais aussi celle d'un croyant, et également celle de quelqu'un qui est au service spécial du Seigneur. Un tel croyant ne doit pas faire sa propre volonté, mais il doit laisser le Saint-Esprit opérer dans ses voies. Nous trouvons aussi cette pensée dans les Saintes Écritures, lorsqu'elles placent devant nos yeux le service des ouvriers. En Actes 13, nous voyons Paul et Barnabas commencer un travail particulier. Bien que Paul ait été appelé à prêcher à tous les hommes, Actes 22, versets 15 et 21, il reçoit cependant un mandat spécial.
Acte 22, verset 15 « Car tu lui seras témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » Verset 21 « Et il me dit, va, car je t'enverrai au loin vers les nations. »
Tant lui que Barnabas étaient déjà des ouvriers. Lui surtout avait beaucoup prêché. Mais maintenant, le Saint-Esprit les retire de l'œuvre à laquelle ils s'employaient localement avec d'autres ouvriers pour leur confier une autre mission dans l'œuvre. Envoyés par l'Esprit-Saint, ils s'en vont, et nous les voyons, dans les chapitres 13 et 14, accomplir la mission qui leur avait été confiée. Chapitre 14, verset 26.
Et de là, ils se rendirent par mer à Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie.
Le Saint-Esprit ne donne toutefois pas seulement des mandats. Il veut aussi conduire les ouvriers dans l'exécution de leurs tâches. Nous le trouvons exposé très clairement dans les chapitres 16, versets 6 à 10.
Et ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Et étant venus jusqu'en Mysie, ils essayèrent de se rendre en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Mais ayant passé par la Mysie, ils descendirent dans la Troade. Et Paul vit de nuit une vision. Un homme macédonien se tenait là, le priant et disant « Passe en Macédoine et aide-nous ». Et quand il eut vu la vision, aussitôt nous cherchâmes à partir pour la Macédoine, concluant que le Seigneur nous avait appelés à les évangéliser.
Paul et Silas parcouraient la Phrygie et le pays de Galatie,
ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie.
Ces régions n'appartenaient-elles pas au champ d'activité de Paul, certes? Et en acte 2, la Phrygie est déjà nommée comme un pays d'où venaient des hommes craignant Dieu. Et combien Paul a ensuite travaillé en Galatie et en Asie. Il passa 2 ans à Éphèse, de sorte que non seulement les habitants de cette ville, mais
tous ceux qui demeuraient en Asie,
la province romaine d'Asie,
ouïrent la parole du Seigneur, tant juifs que grecs. et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Acte 19, versets 10 à 12.
Mais maintenant, le Saint-Esprit les empêche d'y annoncer la parole. Il voulait les employer dans un autre endroit. Cela est dit encore d'une manière plus explicite en acte 16, verset 7.
Ils essayèrent de se rendre en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas.
Paul et Silas voulaient aller en Bithynie. Ils s'étaient proposés d'y annoncer l'Évangile, mais ce n'était pas le moment de s'y rendre, et l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Le Saint-Esprit se nomme ici lui-même l'Esprit de Jésus. Cette expression particulière parle à l'ouvrier de son Seigneur qui lui a conféré le don. Mais ne rappelle-t-elle pas aussi le service du Seigneur Jésus lui-même pendant sa vie ici-bas? Jésus est son nom comme homme sur la terre, et l'Esprit de Jésus parle de l'Esprit par lequel il accomplissait son service. Combien nous voyons la direction du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur. Luc 4 commence par ces mots.
Or Jésus, plein de l'Esprit-Saint, s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert.
Et au verset 14.
Et Jésus s'en retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit.
Par l'Esprit il enseignait, consolait, guérissait, et par l'Esprit il chassait les démons. Matthieu 12, verset 28.
Mais si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous.
Oui, par l'Esprit il s'offrit lui-même à Dieu. Hébreux 9, verset 14.
Combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant?
Mais nous ne trouvons jamais que le Seigneur ait été empêché par l'Esprit de se rendre en quelque lieu que ce soit ou d'annoncer la parole. En lui, tout était parfait. Il connaissait la volonté du Père d'une manière parfaite. Et il agissait en conséquence dans un accord parfait. Quel exemple pour tout croyant, quel modèle pour tout ouvrier du Seigneur. En Colossiens 1, verset 9, l'apôtre écrit
« C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous en avons ouï parler, nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre. »
Au psaume 32, versets 8 et 9, Dieu dit
« Je t'instruirai, et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, qui n'ont pas d'intelligence, dont l'ornement est la bride et le mors, pour les refréner quand ils ne veulent pas s'approcher de toi. »
Et en Matthieu 6, verset 22, il est dit
« La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux. »
Dieu veut nous instruire, il veut nous conduire par son œil, et si notre œil est simple, notre corps sera lumière, nous saurons comment nous devons agir. Souvent, des croyants parlent des directions de Dieu dans leur vie et racontent des cas où Dieu les a empêchés d'aller dans un endroit ou de faire quelque chose, comme nous le voyons en acte 16, verset 7.
Et étant venus jusqu'en Mysie, ils essayèrent de se rendre en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas.
Ce n'est cependant pas une vraie direction. Dieu veut nous instruire et nous conseiller. Il veut nous guider par son œil. Mais pour cela, il nous faut être dans sa proximité. Notre œil doit être fixé sur lui et notre oreille ouverte afin que nous reconnaissions sa volonté. Et quand nous connaissons sa volonté, nous pouvons être conduits par son œil. C'est cela la conduite dans la vie et la conduite dans le service. Alors nous irons là où Dieu veut nous avoir à ce moment, et nous ferons ce qu'il désire de nous dans ce moment. Ainsi en était-il pour le Seigneur Jésus. Lorsqu'il apprit que Lazare était malade, il n'alla pas à Béthanie, bien que son cœur désirât sans doute être près de Lazare et de ses sœurs. Ce n'est qu'au moment fixé par Dieu qu'il se mit en route.
Cette maladie est, pour la gloire de Dieu, Jean 11, verset 4.
Et un peu plus loin, nous lisons,
« N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche de jour, il ne bronche pas, car il voit la lumière de ce monde. »
Si nous marchons dans la lumière, nous ne broncherons pas. Mais si nous ne marchons pas dans la lumière, parce que nous n'entrons pas dans le sanctuaire et ne sommes pas dépendants de lui, nous broncherons. Si j'ai l'intention d'aller quelque part pour donner un message et que le train me passe sous le nez parce que ma montre retarde, de sorte que ma visite est empêchée, je puis être reconnaissant de ce que Dieu m'a retenu d'aller là où manifestement il ne voulait pas m'avoir à ce moment-là. Mais cela prouve que je n'étais pas dirigé par son œil. Je suis comme un cheval ou un mulet qui n'a pas d'intelligence. Dieu a dû m'arrêter sur mon chemin par la bride et le mors. Telle n'est toutefois pas son intention à l'égard de ses enfants et encore moins de ses serviteurs. Il veut qu'ils aillent leur chemin en connaissant sa volonté, sachant que ce qu'ils font doit, selon les pensées de Dieu, être fait à ce moment et de cette manière et dans ce lieu. Combien Dieu serait glorifié si tous ses serviteurs étaient ainsi dirigés par le Saint-Esprit. Mais pour cela, il faut que je me place dans une entière dépendance sous la conduite et la discipline du Saint-Esprit et que j'attende ce qu'il me dit. Consécration, zèle et même de beaux résultats ne sont pas encore la preuve que le chemin d'un serviteur du Seigneur est juste.